Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Claudia a été mise sous ménopause artificielle pendant 3 ans à cause de son endométriose. En couple, elle décide d'arrêter le traitement pour faire un enfant, mais quelques temps après cette décision, le couple se sépare. Après la rupture, Claudia flirte avec un homme à une soirée et découvre 10 jours plus tard qu'elle est enceinte. Sauf que lorsque le bâtonnet affiche positif, elle ne sait pas qui de son ex ou de son flirt est le géniteur. Après un temps de panique et de réflexion, elle décide de poursuivre sa grossesse en solo. Les mois passent, Claudia est bien entourée, continue de sortir avec ses amis, et c'est lors d'une soirée à 7 mois de grossesse qu'elle rencontre celui qui va devenir l'homme de sa vie et le papa de sa fille. Dans la douceur des vacances d'été, ils font connaissance, elle avec son ventre bien rond et lui déjà fou amoureux. Quelques mois plus tard, Claudia accouche accompagnée de sa maman, rencontre Romy, sa fille chérie, après une césarienne, et peut alors commencer à vivre sa maternité en même temps que son histoire d'amour. Leur romance s'accélère avec le confinement et le couple décide de faire un autre enfant. Mais avant cela, celui qui a tenu la place de papa depuis les premiers jours de Romy souhaite l'adopter officiellement comme sa propre fille. Bonne écoute! Bonjour Claudia.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Ben, je t'en prie.
Alors, tu es la maman de 2 enfants.
Tout à fait.
Quel âge ils ont ?
Alors, Romy a 2 ans et Oscar a 6 mois, tout juste.
Et alors, on va repartir du tout début pour savoir un petit peu quel regard toi tu avais sur la maternité avant de devenir maman.
Alors, le regard que j'avais sur la maternité avant de devenir maman, c'est assez marrant parce que jusqu'à 20-22 ans, j'étais pas particulièrement fan des enfants.
Ouais.
J'avais tendance à gueuler un peu dans les trains quand ils commençaient à pleurer. Je trouvais pas forcément ça mignon, attendrissant ou quoi. Ça m'est venu après. En 2016, donc, j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose sévère.
Ok.
Donc j'ai été opérée dans la foulée et à ce moment-là, on m'a un peu fait peur en me disant « Votre réserve ovarienne, elle est très basse. Vous avez les ovaires, les ovocytes en tout cas d'une femme de 38-40 ans. Donc il ne faudra vraiment pas attendre après 30 ans pour faire des enfants. »
Toi, tu avais quel âge ?
J'avais 24 ans à l'époque. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit « Oula, même si je ne suis pas fan des enfants, le fait de me dire que j'en aurai peut-être jamais... » ça a déclenché quelque chose chez moi assez rapidement en fait, et puis je me suis mise à regarder des émissions Baby Boom et tout ce genre de trucs, et je me disais ça a l'air sympa quand même finalement, la grossesse, la maternité, les bébés, c'est mignon en fait. et puis autour de moi, une de mes meilleures amies est devenue maman en fait, elle a fait un déni de grossesse complet.
Ah.
Histoire intéressante d'ailleurs, et elle est devenue maman à 24 ans, et elle non plus aimait pas les enfants, et en fait j'ai vu qu'elle était tombée folle amoureuse de son fils dès le début, et elle m'a désignée comme marraine en fait de son fils.
Mmh.
Et puis là j'ai commencé à m'intéresser au bébé et à vraiment adorer ça, et je suis passée vraiment de rien à tout, parce que maintenant j'adore vraiment les enfants. Mmh. Voilà, donc cette envie de maternité s'est creusée, mais j'étais pas du tout avec la bonne personne à l'époque. Je savais très bien que le garçon avec qui j'étais à ce moment-là, je ferais pas ma vie avec. Puis il était pas prêt, et puis bon, j'avais 24 ans, donc je commençais à peine ma vie pro stable en tout cas. Donc il était pas question de tomber enceinte à ce moment-là, mais c'est vrai que voilà, on m'avait mis sous ménopause artificielle.
Ok, pendant combien de temps ?
Pendant jusqu'au jour où j'ai décidé de l'arrêter pour faire un enfant, donc ça a duré 3 ans.
D'accord.
Donc, jusqu'en allez, novembre 2018, donc presque 3 ans, où là, j'étais avec, selon moi, la bonne personne à l'époque, avec qui on avait décidé, en fait, d'arrêter la pilule pour faire un enfant. Après, discussion, après beaucoup de discussions, il savait que j'étais atteinte d'endométriose, qu'il fallait pas trop tarder. Moi, c'est vrai que là, ça y est, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la bonne personne pour faire cet enfant. Et puis, bon, il s'est avéré que je l'ai quitté quelques mois après cette décision. Et pour diverses raisons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, juste avant de le quitter, un garçon dans le cadre de mon boulot, à une soirée boulot en fait, que j'ai revu après ma rupture avec mon ex. Et voilà, on s'est vu pendant une dizaine de jours, en tout cas on s'est côtoyé, pas très longtemps, mais ça a suffi pour que un mois plus tard, j'apprenne ma grossesse.
Ouais.
Et puis là, ça a été très compliqué, parce que celui-là non plus, je me voyais pas faire ma vie avec, donc je suis assez sélective sur le père potentiel, donc voilà, donc j'ai appris ma grossesse et là ça a été un chamboulement. Là, je m'y attendais pas du tout déjà.
Alors, donc, déjà, comment tu t'es dit que possiblement t'étais enceinte ?
Alors déjà, j'avais du retard.
Ouais.
Ensuite, j'avais quand même la poitrine qui avait doublé de volume. Ouais. Après, moi en fait, pendant mes cycles, entre l'ovulation et mes règles, j'ai tendance à avoir la poitrine qui est très gonflée. Comme un syndrome prémenstruel, sauf que ça dure 2 semaines chez moi. Donc, je m'étais pas inquiétée outre mesure. Je sais pas, j'étais au boulot et j'ai eu des tiraillements dans le ventre, pas du tout comme une arrivée de règles, vraiment c'était assez c'était très bizarre comme sensation, j'avais jamais ressenti ça malgré l'endométriose et les douleurs que j'avais l'habitude d'avoir. Là, c'était vraiment particulier, donc j'ai envoyé un message à ma meilleure amie Anne-Charlotte. J'ai peur d'être enceinte, je le sens là, je sens que je suis enceinte, je vais aller faire un test. Elle me dit mais non, c'est pas possible aussi vite, enfin y a pas de raison et tout ça. Et ben donc j'ai un peu attendu pour faire le test, parce que je sentais qu'il allait être positif. Donc, donc je suis allée à la pharmacie à côté de mon boulot. Je suis arrivée à 9h du matin, je suis arrivée plus tôt en fait au boulot ce jour-là pour avoir le temps de le faire en fait là-bas. Je voulais pas le faire chez moi et je voulais pas attendre le soir en fait surtout. Et donc je fais le test et la barre elle est apparue tout de suite, puis elle était pas claire du tout, hein. C'était ouais. Vraiment les deux barres pouf qui sont apparues. Là, crise d'angoisse, bouffée de chaleur, je suais, j'étais dans un état et en plus j'étais en train de fumer une cigarette, juste après avoir fait mon test, j'ai fumé une cigarette au balcon pour prendre l'air, parce que je suis fumeuse en fait à la base, et une de mes collègues vient me voir, elle me dit mais ça va pas, t'es toute blanche, t'as vu un fantôme, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai dit non, ça va. Et en fait, je suis partie de l'agence où je bossais. Je suis allée faire ma prise de sang dans le labo à côté. Et puis toute la journée, j'attendais les résultats. Mais bon, j'avais pas de doute en fait du tout. Le seul doute que j'ai eu, très honnêtement, c'est qui est le géniteur ? Est-ce que c'est mon ex que j'ai quitté ? Ou est-ce que c'est l'autre garçon que j'ai rencontré à ce moment-là ? Il y avait 5 jours d'écart, mais comme. Le rapport n'a pas eu lieu pendant ma période d'ovulation, à 4-5 jours près, ça pouvait être l'un ou l'autre. Donc, j'ai eu le doute pendant un petit moment, très honnêtement. Et puis après, ce qui s'est passé, je l'ai annoncé à ma mère tout de suite, en fait. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, viens déjeuner. Elle habitait encore à Paris à ce moment-là. Je lui ai dit, viens déjeuner avec moi, j'ai un problème. Elle me dit, non, je peux pas. Ma mère dit jamais non, faut le savoir. Quand je lui demande de déjeuner avec moi ou d'aller prendre un verre, elle dit toujours oui. Et là, pile ce jour-là, non, je peux pas, je suis occupée. Je lui ai dit, maman, vraiment, là, tu vas faire un effort parce qu'il se passe quelque chose, là, c'est très urgent. Et puis c'était la seule personne, la première à qui j'avais envie de le dire et d'en discuter, en fait. Donc, elle a fini par accepter de venir, parce que je lui ai envoyé la photo du test de grossesse, elle m'a dit « je m'en doutais ».
Ah oui.
Alors, je sais pas comment ni pourquoi elle a pu s'en douter, mais en tout cas, elle l'avait senti, donc on a déjeuné ensemble, et puis moi, j'étais un peu perdue, en fait. D'un côté, j'étais très heureuse, parce que j'étais enceinte, parce que finalement, j'étais pas stérile, comme j'ai pu le penser pendant des années depuis le diagnostic de mon endométriose. Et d'un autre côté, j'étais toute seule parce que j'allais surtout pas retourner avec mon ex, même si le bébé était lui. Et j'allais surtout pas me mettre en couple avec l'autre garçon dont j'ai appris que finalement il avait déjà une vie et des enfants. Il me l'avait pas dit sur le moment. Et de toute façon, c'était pas. Voilà, on n'aurait pas fait notre vie ensemble. Mais donc voilà, c'était un peu compliqué parce que je savais qu'en fait je me lançais dans cette aventure toute seule. Donc j'avais quand même pas mal de craintes, même si j'étais stable, que j'avais un appartement, un boulot stable, des amis, que j'étais très bien entourée, ma mère et tout ça. Bon, c'est quand même pas facile, donc j'en ai discuté avec ma mère qui me disait « Non, mais je vais t'aider, je serai là, je l'ai fait », parce qu'effectivement, ma mère m'a élevée toute seule, de A à Z. Ma tante a élevé ma cousine toute seule, ma demi-sœur, qui est un petit peu plus âgée que moi, a élevé sa fille toute seule aussi. En fait, j'étais entourée de mères célibataires, je me suis dit « Bon, il y a une malédiction dans ma famille, mais bon, c'est pas grave, ça va aller ». Je pourrais rencontrer quelqu'un plus tard, mais voilà, dans ma tête, jusqu'aux 2 ans au moins de l'enfant, je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille, j'allais être toute seule avec ce bébé. Et je me suis dit, bon, ma vie va être vraiment entre parenthèses, en fait. Après, voilà, je me suis dit, il y a ma mère, il y a des nounous, enfin, il y a toujours des solutions pour continuer à avoir une vie. Mais j'ai quand même hésité, j'ai eu on va dire quelques jours d'hésitation à avorter quand même.
D'accord.
J'y ai pensé, j'avais même pris rendez-vous, enfin, j'avais surtout posé 3 jours de congé à mon boulot pour avoir le temps de réfléchir, être toute seule chez moi et avoir le temps de faire un peu le vide et le tri dans ma tête. Parce que c'est difficile de penser à 15 000 choses en même temps et j'avais vraiment besoin de ces 3 jours pour prendre vraiment ma décision et voilà, me centrer un peu sur moi et sans voir personne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais quand même pris rendez-vous chez mon gynécologue pour cette fameuse pilule pour avorter, mais j'y croyais pas du tout. Hein. Je savais très bien au fond de moi que jamais je serais capable d'avorter, même si je suis pas contre du tout. Au contraire, ça aide beaucoup de femmes, mais dans mon cas, je sais que je l'aurais regretté. Donc voilà, j'ai pris la décision de garder le bébé. Et puis j'ai été un petit peu malade au début, donc un peu de nausée, mais rien de dingue. J'ai fait ma première écho, donc tout allait bien. J'ai su assez rapidement que c'était une petite fille.
Ouais.
Et j'étais super contente parce que je voulais une fille. Je me sentais plus à l'aise de m'occuper d'une fille, sachant qu'il n'y a aucun garçon dans ma famille. On a foutu que des filles. Donc j'étais plus à l'aise avec l'idée d'avoir une petite fille. Et puis voilà, ma grossesse s'est passée... C'est plutôt bien passé. Bon, il y a eu des petites suspicions de diabète gestationnel. Voilà, bon, pour ma deuxième grossesse que je raconterai après, ça s'est avéré. Donc voilà, mais en tout cas, pour la première, j'ai été assez tranquille. J'ai pris 20 kilos.
Ouais.
Très rapidement, parce que j'ai arrêté de fumer, du coup. Donc, et puis surtout, je mangeais, j'avais faim tout le temps. Et puis j'ai continué quand même à garder une vie sociale. J'allais souvent au resto avec mes amis. J'étais rarement seule en fait et je me suis jamais sentie seule alors que j'étais enceinte célibataire, je me suis jamais sentie seule en fait pendant cette grossesse.
Est-ce que tu as eu des craintes
Alors j'ai eu des craintes mais pas tout de suite. Les 6 premiers mois, j'avoue que ça s'est assez bien passé. En fait, je pense que je faisais complètement l'autruche. C'est plus vers la fin de la grossesse où là j'ai vraiment eu des craintes, des grosses crises d'angoisse. Comment je vais faire En fait, je me suis dit, oh là là, je vais devoir m'occuper d'un bébé. J'ai jamais changé une couche de ma vie. Il faut le savoir que j'avais jamais fait de babysitting, jamais gardé d'enfant avant. Je m'intéressais maintenant au bébé, mais de loin, on va dire, parce que j'ai pas eu de petit frère, petite sœur. Et là, j'ai eu des énormes craintes à la fin de ma grossesse. Mais du coup, à 6 mois, donc, je suis partie en vacances. L'été, du coup, fin juillet, mois d'août, à La Baule, là où j'ai l'habitude de passer mes étés avec ma famille, mes amis. Et puis pareil, là-bas, j'ai retrouvé tous mes copains. On allait au resto. Je suis même allée en boîte.
Ouais.
Sans boire, bien évidemment, d'alcool, ni fumer, etc. Mais bon, je restais facilement jusqu'à 2-3 heures du matin. De toute façon, j'étais complètement insomniaque quand j'étais enceinte. Donc voilà, j'attendais que la musique soit un peu trop forte et je partais à ce moment-là. Et donc, il y a la fameuse soirée où j'ai rencontré donc, mon chéri actuel. Pierre-Édouard, du coup. En fait, ce qui se passait, donc j'étais en boîte de nuit avec tous mes copains, on s'amusait bien et j'allais partir. Et il débarque, en fait. Il débarque avec sa cousine, que je connaissais bien, en fait, depuis assez longtemps. Et donc, je vais voir Margot, on se dit bonjour, etc. Et Pierre-Edouard vient me dire bonjour, il me dit « Ah, t'as trop de chance d'être enceinte. » Et lui, en fait, pour la petite histoire, il me connaissait depuis très longtemps. Il m'avait déjà repéré à 16 ans et il avait même appelé sa tortue. Il avait trouvé une tortue à Saint-Barth, qu'il n'a pas du tout ramenée, bien sûr. Il avait trouvé une tortue à Saint-Barth qu'il avait appelée Claudia, okay, quand il avait 16 ans. Donc, assez drôle, il est flashé sur moi, donc il y a pas mal d'années, et 11 ans auparavant. Et il m'a dit, bah, t'as trop de chance d'être enceinte, je rêve de devenir papa et tout ça. Il m'a dit tout ça en boîte de nuit, puis lui, pour le coup, il avait bu un peu d'alcool. Donc moi, j'étais sobre, donc je m'en rappelle. Et je suis allée voir mes copains et je leur ai raconté ce qu'il m'avait dit. Et je leur ai dit, bah, s'il trouve que j'ai de la chance, il a qu'à venir l'élever avec moi. Parce que physiquement, coup de cœur direct. Et je me suis même demandé pourquoi je ne l'avais pas repéré avant. Mais bon, c'est comme ça, la vie est faite cette façon. Et donc on continue nos vacances à la boule. En fait, moi je suis restée assez longtemps, donc jusqu'à début septembre, parce que je reprenais pas le boulot en fait. Après, j'enchaînais directement avec mon congé maternité.
Okay.
Et lui commençait un nouveau boulot, donc pareil, il est rentré de la boule très tard. Donc en fait, la dernière semaine, on s'est retrouvés tous les deux, sans nos copains, cousins, etc. Et on a continué à passer nos journées ensemble à la plage. Et le soir, on se retrouvait après dîner, on allait boire des verres, bon, toujours sans alcool pour moi, je buvais des bières sans alcool. Et puis lui, il buvait du rosé tout seul, il était content. Et en fait, on se marrait trop, on faisait toutes les fermetures, une par une des bars et restos qu'il y avait à la boule, en fait, donc c'était assez marrant. Et je le raccompagnais en voiture, machin. Et puis même le dernier jour avant qu'il parte, on s'est même fait un cinéma. Donc c'était, alors, pour une femme enceinte, aller au cinéma à 7 mois de grossesse devant un film qui dure presque 3 heures, c'est une épreuve, ouais, c'est vraiment dur. Rester assise aussi longtemps avec une vessie, la vessie d'une femme enceinte, un gros ventre et tout, et puis je pouvais pas me caler sur lui parce qu'on n'était pas assez proches en fait, ouais. On était vraiment, c'était complètement platonique quoi. Je pense qu'on savait déjà qu'on se plaisait beaucoup, mais moi avec mon énorme ventre, presque 7 mois de grossesse, c'était même pas, il y avait rien d'envisageable, c'était vraiment, mais on parlait de pas mal de choses. Il me racontait son envie d'être papa.
Vous parliez de ta grossesse?
On parlait de ma grossesse. Alors moi j'avais été assez je lui avais raconté l'histoire entre guillemets, mais je lui avais dit que le bébé était de mon ex. J'avais pas trop envie de m'étaler sur ma vie sexuelle, j'avais pas envie de passer pour une fille légère qui a eu une histoire de 10 jours avec un mec et qui a gardé le bébé après. Donc c'est vrai que je lui ai un peu caché ça, complètement caché ça au début d'ailleurs.
Parce que là tu savais qui était
Alors oui, parce qu'effectivement à la première écho déjà on m'avait donné une date. D'accord. La première échographie, ils arrivent à estimer quand même la date de conception. Ça se rapprochait beaucoup plus du fameux mec plutôt que de mon ex. Donc voilà, j'avais moins de doutes. Sachant qu'à la naissance, j'ai quand même fait un test de paternité pour avoir la confirmation. Mais à ce moment-là, je savais déjà qu'il y avait très très peu de chances que ce soit mon ex.
Okay.
Et puis lui, il le prenait assez bien. Il ne m'a pas, il m'a pas jugée, en tout cas, sur le fait d'avoir gardé un bébé toute seule, d'être enceinte toute seule. C'est vrai. Alors qu'il vient d'une famille assez tradie, je n'irai pas jusque-là. Je les adore, en plus, si jamais ils écoutent ce podcast. Mais voilà, une famille assez... avec des valeurs, etc. Et je sais pas si tu voulais là, sa famille, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et sa sœur, en fait, était enceinte en même temps. Mmh. Nos enfants ont 3 semaines d'écart. Et donc, il me racontait souvent la grossesse de sa sœur. Enfin, il était vraiment entouré de femmes enceintes, quoi. Et ses parents, d'ailleurs, hallucinaient qu'ils passent toutes ces soirées avec des femmes enceintes, avec une femme enceinte à la boule. Et donc, c'était assez rigolo. Puis, on est rentrés à Paris. Et le soir même où je suis rentrée, j'ai pris le train et en fait il m'avait dit « je t'attends pour boire un verre vendredi ». Parce qu'il m'avait dit « je fais une détox cette semaine, je t'attends ». Alors que moi forcément j'étais pas du tout la personne avec qui picoler à ce moment-là, très sincèrement. Mais il était content de faire des verres avec moi. Donc le jour où je suis rentrée, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « c'est vendredi ». Et il m'a dit exactement, donc où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure. Donc là, on a refait une soirée, et on est allé boire un verre. Je l'ai accompagné après une soirée, puis je suis rentrée plus tôt que lui, parce que bon, j'étais clairement fatiguée, hein, 7 mois. Je tenais plus jusqu'à 3h du matin, ouais, du tout. Et puis on s'est vus assez régulièrement, jusqu'à mon accouchement. Et fin septembre, donc j'étais à pas loin des 8 mois de grossesse, j'ai fait une soirée à la maison avec 20 de mes copains, et je l'ai invité. Et c'était soirée un peu, dernière soirée au Champomy, c'était Ça, c'est cool. Donc, tout le monde est resté assez tard. Et à la fin, il ne restait plus que lui et un couple d'amis. Donc, ce couple d'amis n'habitait pas très loin. Il rentrait à pied, il n'y avait pas de problème. Et donc, Pierre-Édouard me dit, bah, je vais rentrer. Je dis, mais tu rentres comment? Il me dit, bah, peut-être en voiture. Je fais, ah, non, là, tu ne vas pas rentrer en voiture. Tu vas dormir à la maison, j'ai un canapé-lit. Donc, il a dormi dans le canapé-lit. Voilà. Et j'ai même envoyé un message à mes copines qui étaient un peu au courant, qui me plaisaient vachement. Enfin, c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Mmh. Je pensais à lui tout le temps. Lui, j'ai su après que pareil. Et le lendemain, j'envoie un message à mes meilleures amies en disant, bon, bah, il a dormi à la maison. Et tout le monde avait trop hâte que je leur raconte ce qui s'était passé. Mais non, il a dormi dans le canapé. En fait, je suis enceinte de presque 8 mois.
Calmez-vous.
Place, calmez-vous, quoi. Et parce que voilà, il était hors de question qu'il se passe quelque chose pendant ma grossesse. On s'était même pas embrassé d'ailleurs, rien du tout. Mmh. Il s'est rien passé jusqu'à. Donc j'ai accouché le 6 novembre 2019.
Alors comment s'est passé cet accouchement? Est-ce que tu t'étais renseignée sur l'accouchement, la péridurale, etc. ou pas du tout?
Je m'étais renseignée, puis Baby Boom m'a beaucoup aidée. Je me faisais tous les replays. je m'étais renseignée, mais alors en fait j'ai une fin de grossesse donc assez compliquée déjà. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse.
Ouais.
J'avais tendance à appeler mes copines à 4h du matin, viens à la maison, ça va pas. Ouais. Et puis quand je fais des crises d'angoisse, je suis spasmophile en fait. Donc je tremble et je perds un peu le contrôle de mon corps.
T'en faisais avant d'être enceinte?
J'en ai fait très peu, mais je suis claustrophobe. Donc dans des situations où je me sens vraiment enfermée, ça peut se déclencher. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Puis depuis que j'ai des enfants, j'en fais plus du tout. Donc, mais voilà, à la fin de ma grossesse, j'en ai fait beaucoup. Je prenais même des glyphitoses et ce genre de trucs aux plantes auxquelles on a le droit enceinte pour essayer de m'apaiser. Et ma mère, surtout, a pris sa retraite. En fait, pendant ma grossesse, elle est partie vivre à La Baule. Donc elle n'était pas à 2 minutes de chez moi comme avant. Donc je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et là, j'ai commencé à avoir des bouffées d'angoisse. Et puis à la fin de ma grossesse, déjà j'avais pris 20 kilos. Honnêtement, j'avais un ventre énorme. Les gens me demandaient souvent si j'attendais pas des jumeaux. Je pense que la suspicion de diabète gestationnel, à mon avis, si on avait vraiment creusé, je pense que j'en faisais. Parce que ma fille était quand même assez costaud.
Ouais.
Donc à partir de 37 semaines, j'ai commencé à tout faire pour accoucher. Là, déjà, je prenais plus l'ascenseur, je prenais que les escaliers. Je marchais 10 km par jour, j'étais capable de faire 3 arrondissements pour trouver un Starbucks, pour boire telle boisson, enfin j'avais vraiment des obsessions enceintes. Et je buvais de la tisane de framboisier, enfin j'ai vraiment tout tenté en fait. Je voulais absolument accoucher avant parce que je savais qu'elle avait un bon poids et que je risquais rien à accoucher à 37-38 semaines du tout. Donc j'avais rendez-vous avec mon gynéco le 4 novembre. J'avais demandé un déclenchement en fait.
D'accord.
J'ai demandé un déclenchement parce que vu ma situation, voilà, j'étais toute seule. Pierre-Édouard était dans ma tête, mais je savais pas je pouvais pas deviner qu'il allait se passer quelque chose. Même si on s'aimait bien, il y avait quand même des chances que ça fonctionne pas. Donc j'ai demandé un déclenchement à mon gynécologue qui a accepté, mais en me disant, on vous déclenchera si jamais votre col est favorable, que les conditions sont bonnes, etc. Donc le 4 novembre, le gynécologue me dit, non mais votre col il est complètement fermé, il n'est pas du tout favorable. Enfin, il m'a sous-entendu que je risquais plus d'accoucher après terme qu'avant. Donc là j'ai commencé à paniquer. Ma mère était à Paris pour le coup, elle était venue, elle est arrivée un peu avant, du coup. Elle est arrivée fin octobre, parce que ma date de terme était le 15 novembre, donc elle est arrivée fin octobre.
T'avais prévu d'accoucher avec ta maman?
Oui, j'avais prévu qu'elle soit avec moi à l'accouchement, je voulais personne d'autre, et puis je voulais pas non plus accoucher toute seule, donc je me voyais pas accoucher sans elle. Et donc elle m'a accompagnée à ce fameux rendez-vous chez le gynéco, il m'a dit bon bah là c'est pas du tout favorable. Je l'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes en fait, j'ai dit là j'en peux plus, je dors pas, j'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis au moins 3 mois, je suis complètement insomniaque, j'ai le dos, j'avais une sciatique en plus depuis le début de ma grossesse. J'en pouvais plus. En fait, j'étais à bout, j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire en fait. Sachant que voilà, à l'écho, ma fille était estimée assez pas grosse mais en bon poids. Le diamètre de sa tête était limite, c'est-à-dire que là, j'étais à 2 doigts de plus pouvoir accoucher par voie basse.
Ah oui, d'accord.
Donc j'ai dit là on me déclenche, ça y est, j'en peux plus, je suis arrivée à bout. J'ai accouché dans une clinique privée, à la clinique de la Muette, dans le 16e. Donc le déclenchement, quand j'ai vu le gynéco lundi, il m'a dit donc vous rentrez ce soir à la maternité, donc le 4 novembre au soir. Ils n'ont pas voulu me déclencher tout de suite parce que la sage-femme qui m'a posé le monito l'a mal posé. Donc en fait, sur le tracé, on dirait que le cœur du bébé a un petit. un problème en fait, alors que pas du tout, c'est juste qu'il avait été mal posé, donc le gynéco a refusé de me déclencher ce soir-là, on a dû attendre le lendemain, jour de mon anniversaire, le 5 novembre donc, pour me déclencher, mais en fin de journée. Donc voilà, on m'a posé le propès en fait, c'est ce qui a servi à me déclencher. Ça a commencé à faire effet 6 heures après, donc il était 23 heures, donc j'ai commencé à avoir des contractions hyper douloureuses. Et très rapproché, mais mon col ne s'ouvrait absolument pas. Donc je sentais que j'allais passer une bonne nuit. Là, j'étais déjà à deux nuits blanches. Donc blanche, hein, pas du tout dormie. Je commençais à vraiment avoir des hallucinations. Limite, j'étais vraiment pas bien.
Et tu restais sur place ?
Je restais sur place. Ah ouais, à partir du moment où il déclenche, il garde sur place. Et ils m'ont fait une piqûre de substitut morphinique. Et alors, je ne le savais pas, mais je suis intolérante à la morphine. Pas allergique, mais intolérante. Ok. Donc, en fait, au lieu de m'apaiser et de m'enlever la douleur, ça m'a angoissée fois 10 000. J'avais l'impression d'avoir pris je sais pas quelle drogue hallucinogène. J'étais dans un état atroce, donc troisième nuit blanche. Et là, on arrive le 6 novembre matin. Là, je fais appeler mon gynécologue. Là, vous allez me la sortir en césarienne. On va arrêter le carnage. En fait, elle était très très haute dans mon ventre, mais je la sentais vraiment, en fait, quand elle me donnait des coups, ça faisait bouger mes seins, donc vraiment, elle était hyper haute, je la sentais pas descendre du tout, dès que les sages-femmes venaient vérifier mon col, bah, il bougeait pas. Après, voilà, j'ai passé au moins 24, non, pas, peut-être pas 24 heures, mais je sais plus combien d'heures en travail, en fait, et en souffrance, finalement, donc là, j'ai dit, de toute façon, ça sert à rien. Je pense que les contractions, elle va commencer à plus les supporter, on va la sortir en césarienne, c'est pas grave. Moi, je m'en fichais un peu de la façon dont j'accouchais finalement, surtout que bah, quand on est mère célibataire, qu'on n'accouche pas avec son chéri, mais avec sa mère, on n'a pas forcément envie de se taper 40 heures de travail à insulter sa mère. Voilà, je me suis dit une césarienne, au moins c'est plus rapide, ça ira bien, je suis à 39 semaines. Donc il a fini par accepter la césarienne, j'ai bien poussé pour qu'il accepte. Et voilà, elle est née à 14h07. Romy, du coup. Bon, la césarienne a été un peu un fiasco aussi, parce que j'ai failli lui vomir dessus quand on me l'a posée sur moi, à cause de l'arachie. Ah, oui. L'arachie anesthésique, j'ai pas supporté non plus, parce qu'ils ont dû me remettre un peu de morphine. Bon, c'était un carnage, mais bon, finalement, avec le recul, finalement, j'en rigole et j'en garde pas un mauvais souvenir, mais ouais. C'est vrai que sur le moment, c'était très dur et j'ai aucun souvenir du jour de sa naissance. Mmh. Aucun, jusqu'au lendemain matin, où on me l'a apporté, en fait, elle était à la nursery la nuit pour que je récupère. Mais voilà, le premier jour à la maternité, enfin, le premier jour de sa vie, bah, elle a pas été changée jusqu'à 23h, personne venait dans la chambre, personne se demandait comment j'allais ou quoi, enfin, c'était vraiment... c'est un peu le flou total, mais sur le moment, je me suis dit quand même, oh là là... Et puis je me suis pris une claque dans la gueule, énorme. Oh, maintenant j'ai une vie à m'occuper et je suis responsable d'elle en fait, de sa vie. Et il faut que je la maintienne en vie. Comment je vais faire ça, moi qui n'arrive même pas à garder un cactus en vie pendant plus de 15 jours.
À quel moment tu t'es dit ça quand tu...
Quand je l'ai regardé, le lendemain matin surtout. Okay. Le lendemain matin, donc on était le 7 novembre, il était 6h30 du matin. La sage-femme me la ramène de la nursery. Bonjour, voilà, donc il faut donner le biberon à votre fille, machin, je me dis, oh là 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 là, comment dans un biberon, enfin, parce que le premier jour, forcément, j'avais rien fait, j'étais trop mal, la césarienne m'avait complètement, j'étais KO, je me rappelle que j'étais même incapable de parler ce jour-là à ma mère et tout, je me suis même pas vraiment intéressée à ma fille, parce que j'étais trop mal, en fait, j'étais vraiment dans un état... Mais bon, avec le recul, voilà, j'ai pas de regrets ou de remords sur cet accouchement. J'ai demandé un déclenchement, donc j'assume. La césarienne, voilà, c'est compliqué, mais...
Et t'avais prévu d'allaiter ou pas du tout ?
Alors non, j'avais pas prévu d'allaiter parce que... alors honnêtement, je m'étais pas trop posé la question, mais je m'étais dit que ça allait pas du tout aller avec le mode de vie que je voulais avoir. C'est-à-dire que je voulais quand même garder une vie sociale. Je voulais continuer à voir mes amis, je voulais pouvoir bouger, même aller faire des courses en fait, sans... Enfin, ma mère allait rester un mois avec moi, chez moi, pour m'aider, et je ne me voyais pas tirer mon lait, allaiter. J'étais assez fatiguée et seule pour en plus me rajouter l'allaitement toutes les heures, et puis pour avoir allaité mon fils, du coup, mon deuxième enfant, j'aurais pas été capable d'allaiter ma fille. Enfin, ça allait pas du tout avec mon mode de vie à ce moment-là. Donc voilà, les premiers jours à la, bah, la maternité se sont plutôt bien passés, puis j'ai atterri doucement. Voilà, après cette bouffée d'angoisse encore, voilà, de responsabilité qu'on se prend, enfin c'est vrai que... Bah, en fait, on n'est jamais préparé, on peut regarder... On peut regarder toutes les émissions qu'on veut sur la maternité, écouter tous les podcasts. Bon, il faut attendre que ça arrive pour vraiment se rendre compte de ce que c'est d'accoucher, de puis d'avoir une vie à s'occuper, en fait. Parce que j'ai pris conscience, en fait, ce jour-là, que c'était pas comme un animal qu'on prend, qu'on garde 20 ans au mieux, 15 ans, à la limite. Là, c'est vraiment pour toute la vie, quoi. Mmh. Et c'est vraiment... Enfin, ça fait peur, en fait. Les premiers jours, j'ai eu très peur. Et puis je suis rentrée à la maison avec ma mère, et puis là, bon, ça s'est très bien passé, elle m'a beaucoup aidée. Je suis allée me faire masser, je suis allée me faire les ongles, enfin.
T'as pris soin de toi.
J'ai commencé à reprendre soin de moi. Et quand Romy avait 2 semaines, du coup, j'ai proposé à Pierre-Edouard donc de venir la voir et se faire un dîner, surtout en fait, un dîner enfin avec une bonne bouteille de vin. Pas enceinte, et puis qui vit pas se voir Romy aussi, parce que déjà, c'était la dernière personne que j'ai vue avant d'accoucher, à part ma mère, c'est vraiment, je crois que je l'ai vue peut-être le 31 octobre, quelque chose comme ça, vraiment, juste avant de rentrer à la maternité, on avait été prendre un coca avant de dîner, et donc j'avais hâte en fait de lui présenter ma fille, qu'il a vue dans mon ventre pendant 3 mois, quoi,
ouais.
et donc il est venu à la maison, Romy avait 15 jours, et ma mère était là pour la garder après, pendant qu'on allait au restaurant. Ma mère était au courant de tout, bien évidemment. Elle savait très bien qui me plaisait. Elle l'avait déjà aperçu à la boule. Puis là, elle l'a revu ce soir-là quand il est venu voir Romy. Elle était fan aussi. Donc, il a rencontré Romy. Il est arrivé avec plein de cadeaux. Hyper attentionné. Hyper émerveillé, en fait, de la voir. Et je me suis dit... En fait, c'est vraiment dommage que ce soit pas lui le géniteur. C'est dommage que je partage pas ça... avec lui, donc on est allé dîner, et puis premier bisou.
Ah.
Voilà, enfin, après 3 mois de rendez-vous platonique, ouais. Puis on s'écrivait des textos tous les jours, il m'avait raconté l'accouchement de sa sœur, j'avais des photos aussi de son neveu, enfin, il était à fond bébé, en fait. Et puis après, donc, ma mère est partie 2 semaines après ça, elle était restée 1 mois. Bon, le jour où elle est partie, énorme angoisse.
Oui, parce que là, tu te retrouves vraiment seule avec ton bébé.
Là, je me retrouvais vraiment seule avec mon bébé, là. J'avais plus personne pour m'aider. Enfin, si, après, j'ai des amis qui sont infirmières en pédiatrie. Enfin, je suis quand même assez bien entourée. Oui. J'ai des mamans autour de moi aussi, donc c'est... Mais bon, j'étais seule, et même si mon histoire avec Pierre-Edouard commençait, en fait, on a été comme un couple au début, quoi. Il dormait à la maison 2 fois par semaine, on allait au resto, on emmenait Romy, bien évidemment, parce que je l'ai pas du tout fait garder avant de reprendre le boulot en février, donc elle était vraiment tout le temps avec nous, mais c'était génial en fait, et puis il s'en occupait super bien, j'avais confiance en plus en lui, j'avais un chien en plus à l'époque, qui est maintenant chez ma mère, qu'il fallait que je sorte, et donc je lui laissais Romy 20 minutes le temps de sortir le chien, il était content, il pouponnait, il donnait son biberon, enfin il était vraiment, en fait il s'est impliqué dans sa vie dès le début, dès notre début de vie de couple, parce qu'en fait ça a démarré quand Romy est née finalement, et voilà, il a été super impliqué dès le début.
Est-ce que vous en avez parlé de ça, du fait que tu sois maman
On en a parlé, puis moi je lui avais dit que j'avais un peu, enfin je lui sous-entendais un peu, quand on a commencé vraiment à avoir une histoire de couple, on va dire, je lui disais un peu mes craintes, que voilà, j'avais peur que le fait d'avoir un bébé, moi je savais pas comment j'allais réagir aussi, est-ce que j'allais avoir assez de place pour lui, sachant que j'étais complètement dévouée à ma fille, et puis je suis une mère poule, j'ai peur de tout, je suis très angoissée de nature, alors en plus sur ma fille, c'est vraiment, j'avais peur en fait de pas avoir de place pour lui, et puis finalement j'ai réussi vraiment à, en fait tout le monde est arrivé d'un coup, ma fille et mon chéri, les deux sont arrivés en même temps dans ma vie, et c'était parfait en fait, parce que voilà, ça m'a vachement aidée, et après, donc Noël est arrivé, je suis allée passer Noël chez ma mère à la boule du coup, avec il y avait ma tante et ma cousine aussi, et Pierre-Edouard qui avait aussi un appartement là-bas m'a rejoint le lendemain de Noël, et il est resté 10 jours, donc en fait on a passé 10 jours collés tous les trois avec Romy du coup, on s'est même fait à la soirée du Nouvel An, donc sans Romy, qu'on avait confié à ma mère, et puis une soirée aussi tous les deux, on avait dormi dans l'appart qu'il avait là-bas, pour être un peu tranquille sans enfant, essayer de se découvrir un peu sans bébé. Et puis c'était des vacances merveilleuses. Et là, je me suis dit, bon, je pense que celui-là, c'est le bon. Je pense que ça va durer. Et pour Noël, du coup, je lui ai offert un séjour à Megève au ski. Enfin, au ski, du coup, sans skier, parce qu'on emmenait Romy, donc on est parti fin janvier. Et pareil, super vacances. On a passé 5 jours. Et en fait, Romy, on se rendait compte que elle dormait beaucoup. En fait, on adorait s'en occuper. Puis elle nous laissait quand même le temps de... on pouvait aller au resto, l'emmener. Elle dormait beaucoup. Mmh. Elle était vraiment... c'était un bébé assez facile. Ouais. Alors facile, elle avait un reflux quand même. Donc la nuit, elle dormait pas du tout. Ça, faut le savoir. Et j'ai eu très peur de ça, en fait. Une de mes craintes, c'était qu'il me quitte parce qu'il dormait pas la nuit. Parce que dès qu'on dormait ensemble, en fait, on dormait pas. Romy, en fait, supportait pas du tout d'être trop allongée. Elle se réveillait sans mentir 20 fois par nuit. Ouais. Donc c'était très difficile. D'ailleurs, elle a pas dormi jusqu'à ses 18 mois. Et c'est encore à 2 ans, aujourd'hui, un peu chaotique. Donc, et en fait, au début de notre relation, je me suis dit, mais en fait, je suis arrivée dans sa vie avec un bébé qui dort pas. Il va péter un câble, en fait, de pas dormir comme ça, de prendre sur lui. Puis on a été confinés. En mars. Alors j'avais repris le boulot en février, j'avais mis Romy chez une nounou qui s'en occupe encore aujourd'hui, qui est exceptionnelle. Je partageais la garde avec une autre famille d'amis qui avait un bébé qui était né le même jour. Et donc j'ai repris le boulot, pas pour longtemps, parce que voilà, annonce du Covid, confinement en mars. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On avait chacun nos apparts à Paris à ce moment-là. Moi j'avais mon 2 pièces avec ma fille, lui il avait son appart, il était en coloc avec sa cousine à l'époque. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas se confiner dans un appart. On sait pas combien de temps ça va durer. On savait que ça durerait pas 2-3 semaines. Et donc, on est allé se confiner chez ma belle-sœur. Donc, sa sœur qui a un petit garçon, Barthélemy, du même âge que ma fille. Et son mec, du coup, ils habitent ensemble. Enfin, dans une maison, avec jardin, donc beaucoup d'espace. Il y avait de la place pour nous. Bah, franchement, c'était la meilleure période de ma vie. Le confinement s'est tellement bien passé. Il m'a beaucoup aidée avec Romy, en fait, il en a fait beaucoup. Moi, les nuits, quand je pétais un câble et que j'étais plus capable de me lever parce que j'avais déjà pas dormi depuis 5 nuits, il prenait le relais, il s'en occupait vachement bien, il a changé la journée. Faut savoir que Pierre-Edouard, quand on le voit à la base, on se dit pas que c'est du genre à changer des couches, hein. C'est pas du tout le... C'est un papa poule, mais c'est vrai qu'on se dit pas qu'il va changer une couche, pas du tout. Et en fait, il s'en est vraiment merveilleusement occupé, comme si c'était sa fille, en fait.
Tu lui parlais, toi, de tes peurs, justement, de ce que tu disais juste avant ? Qu'est-ce qu'il disait, lui ?
Il me disait, mais non, il me rassurait, en fait. Il me rassurait, il était très rassurant, il a toujours été très rassurant dès le début. En fait, j'avais des craintes, mais qui étaient pas fondées, en fait, finalement, parce que j'avais aucune peur à avoir. On s'est jamais engueulé pendant tout le confinement. Tout s'est toujours passé, ça a été hyper smooth du début à la fin, avec ma belle-sœur, pareil. En plus, avoir 2 enfants du même âge, ça rapproche vachement, en fait. Donc on a créé une super relation, on est vraiment devenus amis maintenant, on s'entend très bien. J'avais rencontré ma belle-famille aussi, mes beaux-parents, qui ont tout de suite adopté Romy. Je vois encore ma belle-mère, Romy avait... c'était avant le confinement, donc ça faisait pas longtemps que j'étais avec Pierre-Edouard. Elle l'avait sur les genoux, elle l'a bercée, comme si c'était sa petite fille, en fait. Je me dis, c'est fou, c'est tellement naturel, alors que c'est pas son sang, c'est pas... C'est pas la fille biologique de son fils. Donc, non, c'était assez... j'ai été vraiment bien accueillie. J'ai énormément de chance d'être tombée sur eux, en fait. Enfin, sur mon chéri, déjà, mais il a une famille exceptionnelle, et ça, j'en suis vachement reconnaissante. Et voilà, donc le confinement passe, qui se passe beaucoup trop bien. On n'a pas du tout envie de se déconfiner, mais pas du tout. D'ailleurs, on s'est déconfiné après tout le monde, et après, on est parti quelques jours en vacances, histoire de prolonger le... voilà, on n'avait pas du tout envie. Et moi, alors, j'ai décidé de quitter mon boulot. J'étais salariée en agence. Et j'avais pas du tout envie de continuer à être salariée. Je voulais on a eu le projet d'emménager dans une maison. En fait, nous aussi, on voulait notre maison avec jardin, d'espace pour notre fille, enfin, pour ma fille à l'époque, pour le chien, etc. Et donc, on a emménagé dans le 78, début juillet, l'année du 2020, donc l'année du confinement. Et meilleure décision de notre vie, parce que on est super heureux, beaucoup d'espace. Et au mois de juillet, donc, on a pris la décision de faire un deuxième bébé. Parce que forcément, il était très heureux avec Romy, mais il rêvait d'un enfant biologique à lui.
Et alors justement, avant de parler de ta deuxième grossesse, concernant le géniteur de ta fille, est-ce que tu l'as... Comment ça s'est passé?
Alors le géniteur de ma fille, donc je l'ai mis au courant quand même de l'accouchement. J'ai fait un test de paternité avec mon ex.
Okay.
Parce que lui et moi voulions vraiment être sûrs que ce soit pas lui.
D'accord.
Donc le test, on a eu les résultats en janvier. Et c'est... donc Romy avait 2 mois et c'est à ce moment-là que... J'ai dit la vérité à Pierre-Édouard, que c'était pas Antoine le géniteur, mais le mec avec qui j'avais eu une brève histoire juste après. Voilà. Et il a été vachement rassuré, en fait. Il m'a dit, en fait, je préfère, parce que lui, au moins, il ne nous embêtera pas. Il a sa famille, etc. Et donc, le géniteur, je l'ai bien évidemment mis au courant de l'accouchement. Je l'ai mis au courant aussi du résultat du test de paternité, parce que même si on était sûr que ce soit lui, il y avait quand même un doute qui planait. Il m'a répondu ok, très bien, on n'est pas en mauvais terme, on n'est pas en bon terme, on n'est pas en terme du tout en fait. Oui. On s'écrit jamais, on prend pas de nouvelles, on s'était un peu mis d'accord, on s'est eu au téléphone pendant ma grossesse au tout début, et voilà, lui il a sa vie, sa famille, ses enfants, et c'est très bien comme ça, il viendra jamais interférer dans nos vies. Il a pas souhaité reconnaître Romy, et tant mieux, parce que je ne voulais pas qu'il la reconnaisse. Oui. Je me suis dit que ça servait à rien. Moi j'ai été reconnue par mon père que j'ai jamais connu, finalement ça m'a pas servi à grand chose. Donc je me suis dit voilà, on laisse la case blanche, et voilà, ce qui nous amène au mois de juillet où Pierre-Édouard en fait m'a demandé si j'avais envie d'un enfant avec lui, et bah donc on a arrêté la pilule dans la foulée et il a reconnu ma fille, enfin il a adopté ma fille ce même mois de juillet. Donc quand on a pris la décision d'en faire un deuxième, il m'a dit bah au moins on aura tous le même nom, enfin sauf moi, on n'est pas mariés, mais en tout cas nos enfants auront le même nom et il y aura pas de distinction, et voilà, je l'adopte comme ma fille.
Et alors comment ça se passe l'adoption dans ces cas-là?
Alors on n'a pas pu faire une... Quand je dis ado, lui il préfère le terme adopté, il l'a reconnu en fait, comme si c'était sa fille biologique.
D'accord.
Comme si c'était sa fille biologique à la mairie, donc ça se fait. Comme la case était blanche, justement, il y avait de la place pour lui. Parce qu'une adoption, il faut être marié, c'est compliqué, ça prend des années. On n'allait pas se marier tout de suite du tout. Et puis c'était important en fait, avant de faire le deuxième, que Romy ait sa place aussi auprès de lui, et enfin que ce soit écrit en tout cas. Donc voilà, et puis je suis tombée enceinte très vite. Donc pour la deuxième fois, j'ai mis à peine 2 mois, malgré l'endométriose. Voilà, on m'avait dit vous allez galérer, blablabla. Ah bah non, les deux en éternuant. Hein, vraiment, j'ai pas galéré du tout. Surtout qu'on avait fait attention, je voulais surtout pas tomber enceinte pour l'été. Je voulais pas passer encore un mois d'août enceinte. Voir tout le monde boire du rosé et boire de l'eau salée.
Il y a des priorités.
En plus, j'avais retrouvé mon corps quand même. J'étais devenue assez mince, donc j'avais perdu mes 20 kilos. J'avais peut-être pas perdu les 20, mais j'en avais perdu au moins 18. Donc j'avais envie de passer un été tranquille, on va dire. Donc je m'étais dit, on fait attention au mois d'août, juillet-août. Et puis en septembre, on n'a pas fait attention. Et puis je suis tombée enceinte. Et je l'ai senti tout de suite. Le jour où le bébé a été conçu, je me suis dit, ça a marché. Donc, même quelques jours après, j'ai retrouvé ma sœur à Disneyland avec sa fille. Et on était dans la queue du Space Mountain quand même. Et je lui ai dit, oulala, j'ai des tiraillements dans le ventre. Là, je suis enceinte, c'est sûr. Et ça faisait 5 jours, donc j'avais aucun moyen de le savoir tout de suite. J'ai senti qu'il s'accrochait, que ça allait marcher. Bah, ça n'a pas loupé. J'étais bien enceinte. Et puis voilà, donc deuxième grossesse.
Donc tu disais que ça avait été un peu plus compliqué pour cette grossesse?
Alors j'ai eu une grossesse horrible. C'était très dur parce que déjà j'ai été malade, mais malade à vomir vraiment jusqu'à 4 mois plein. J'ai vraiment vomi, je me vois encore en train de dîner et de courir après aux toilettes pour vomir tout mon repas par le nez. Je suis vraiment traumatisée, j'ai été très malade. J'ai été tellement malade au début qu'on s'est demandé si j'attendais pas des jumeaux. On a eu une petite crampe pendant 1 ou 2 semaines. Mon gynécologue m'avait dit, ouais, votre taux, il est très haut, le taux HCG. Ouais. Plus vos nausées qui sont... c'est carrément de hyper-MS gravidique. Donc, on a suspecté des jumeaux. Heureusement, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai été très malade. Diabète gestationnel confirmé à 10 semaines de grossesse. Non, 10 semaines d'aménorrhée. Donc, tout dès le début.
Ouais.
Dès le début, on m'a dit, ça suffit, vous arrêtez les pâtes, le pain, le riz, tout ce qui est féculent, vous arrêtez. Le sucre, vous arrêtez. Les yaourts, vous arrêtez. En fait, j'avais plus le droit de manger. J'avais le droit aux protéines et aux légumes. Les fruits, c'était vraiment raisonnablement.
Sachant que j'avais strict.
J'avais arrêté la cigarette, j'avais, enfin, le café, j'avais un peu arrêté aussi. Enfin, je buvais que du déca parce que forcément ça va avec la cigarette, donc j'ai, j'ai... Donc en fait, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus fumer, je pouvais plus boire et en plus je pouvais plus manger. Et en plus je vomissais. Donc le début a été vraiment cata, problème de thyroïde. Donc diagnostiqué aussi, donc en plus assez gros. Je sais que pendant ma première grossesse aussi, j'avais un problème de thyroïde, j'étais sous traitement, mais c'était en micro-dosé, on va dire, c'était pas énorme. Et là, vraiment, j'avais besoin d'une grosse dose de lévothyrox. Et en fait, je pense que ça jouait beaucoup sur mon humeur, parce que j'ai été infernale pendant toute ma grossesse. Et en fait, tous les jours, je me disais, mais en fait, arrête de péter des câbles comme ça, parce que là, sinon, tu vas vraiment finir mère célibataire. Genre, t'as de la chance de pas l'aide, d'avoir rencontré un mec formidable, qui t'aime et qui faisait fonder une famille et tout. Mais j'étais infernale. Et en fait, mes humeurs, c'était horrible. Déjà, ma fille se réveillait la nuit, au moins 10 fois par nuit. Mm. Plus la fatigue de la grossesse, tous les maux, etc. Là, c'était très compliqué. J'ai eu peur plus d'une fois qu'il me quitte et... Enfin, qu'il se barre, quoi, complètement.
Finalement, c'est pas simple de vivre une grossesse aussi avec quelqu'un.
Non, c'est pas simple. En fait, c'est vrai que quand ma première grossesse, j'étais toute seule, on m'a foutu la paix. Alors, effectivement, si j'étais de mauvaise humeur, bah déjà je me rendais pas compte parce que j'étais toute seule. Et puis, au pire, je pouvais péter des câbles toute seule, il n'y avait pas de problème. Là, non, là c'est vrai que c'était en vivant ensemble. En plus, on apprenait à vivre ensemble. Ça faisait que 4 mois qu'on avait emménagé, 3 mois. Et là non, et je pense qu'en fait il s'est dit oh là là, c'est pas celle-là que j'ai c'est pas celle-là que j'ai demandé en fait, c'est pas celle-là dont je suis tombée amoureux, qui pète des câbles pour tout et pour rien. J'étais mauvais poil constamment, j'avais peur, je pleurais tout le temps, c'était des montagnes russes émotionnelles dans ma tête. Puis je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas attendu plus longtemps avant de faire le deuxième. Enfin, je regrettais pas, mais c'était vraiment, parfois c'était très très dur. C'était et puis en plus on a été reconfinés, donc vie sociale, etc., machin. Enfin, je suis passée en fait d'une vie parisienne avec mes amis, etc., à une vie en région parisienne, dans une maison avec ma fille, avec mon chéri, confinée. Enfin, en fait, je suis vraiment passée du coq à l'âne, en fait. Je suis vraiment passée du coq à l'âne et donc énorme chamboulement. Et puis voilà, les hormones, moi ça me réussit pas énormément. Je savais que c'était un garçon, je me suis dit ok, j'ai pas du tout les mêmes symptômes que pour ma fille. Est-ce que c'est un lien? J'en sais rien, mais je savais que c'était un garçon. L'échographie l'a confirmé assez rapidement, dès la première écho. Et puis voilà, ma grossesse a continué.
T'étais contente que ce soit un garçon par rapport à l'histoire de Romy?
J'étais très contente. Et c'est ce que je voulais. Je voulais un garçon. Pierre-Edouard voulait un garçon aussi. En fait, on s'est dit, Romy, de toute façon, elle connaîtra son histoire. On ne lui mentira pas. Moi, il faut savoir qu'on m'a menti toute ma vie. Enfin, toute mon adolescence. Ma mère m'a caché que j'avais 3 frères et sœurs. Enfin, 3 demi-frères et sœurs. Elle m'a caché pas mal de choses sur mon père et tout ça. En fait, j'ai découvert, une petite parenthèse, j'ai découvert que j'avais une demi-sœur sur Facebook quand j'avais 17 ans. Elle m'a écrit, elle m'a dit, t'es bien la fille de machin. J'ai dit oui, elle m'a dit je suis ta sœur. J'ai dit ah bon, et c'est tout ce que tu as à me dire? Ah bah oui, puis il y en a 2 autres. Bah voilà, donc j'ai découvert ça. Et je voulais surtout pas reproduire le même schéma avec ma fille, je voulais surtout pas lui mentir. Bon, là, bien évidemment, elle a 2 ans, elle est trop petite pour comprendre pour l'instant, mais on lui cachera jamais la vérité. Et c'est pour ça qu'on voulait un garçon, parce qu'on s'est dit il y aura peut-être moins de concurrence ou de jalousie possible entre eux.
Oui, de comparaison.
Voilà, ce sera un garçon et une fille, on les élève de toute façon de la même façon, mais il y aura forcément des différences dans leur caractère. Et on était hyper heureux quand on nous a dit que c'était un garçon. Ça aurait été une fille, ça se serait très bien passé, mais c'est vrai qu'on appréhende moins le moment où on dira la vérité à Romy, enfin où on lui expliquera plutôt son histoire, parce que là, il n'y a pas de vérité au mensonge, là, juste elle est trop petite pour comprendre. Mais on appréhende beaucoup moins le moment où on va lui dire, en fait, parce que voilà, c'est son papa, elle a le même nom que son papa, le même nom que son frère, voilà, c'est juste que c'est pas la même graine que pour son petit frère Oscar, donc ça on lui expliquera, et puis elle grandira dans des classes où il y aura des enfants qui auront 2 papas, ou 2 mamans, ou une seule maman, un seul papa, enfin voilà, ça va rentrer dans les mœurs, et je pense qu'elle arrive dans une génération où ça sera beaucoup plus facilement acceptable que la mienne, où j'ai été élevée par une mère célibataire et où forcément les gens se demandaient mais elle a pas de papa, c'est bizarre. Là ce sera pas bizarre d'avoir un papa qui l'a adopté et voilà. Puis la grossesse suit son cours, donc jusqu'à 8 mois En plus de tout ce que j'avais fait, j'ai fait une cholestase gravidique. Donc c'est une complication au foie qui peut être très grave. Un jour dans la nuit, ça a commencé à me gratter sur tout le corps. Et je me suis rappelé en fait que tous les mois, mon gynéco à la consultation mensuelle me demandait « Est-ce que ça vous gratte ?» Je dis « Non, ça ne me gratte pas. Pourquoi il me pose cette question bizarre ?» Puis donc une nuit, ça m'a gratté. Et là, je me suis dit « Ok, je suis allée voir démangeaison enceinte. » Et là, je tombe sur cholestase gravidique, machin. Et là, je me suis dit, avec tous les problèmes que j'ai eus pendant cette grossesse, c'est sûr que c'est ça.
Ouais.
J'ai dit à mon chéri, c'est sûr que c'est ça. Ma meilleure amie, pareil. J'ai appelé la clinique, donc très tard le soir. Je suis sûre que j'ai ça. Ah, non, madame, il faut faire des analyses. Ça prend du temps avant d'avoir les résultats. Je fais, écoutez, genre, si ça peut être dangereux pour le bébé, on n'attend pas. J'étais à 37 semaines. Et à 37 semaines, c'est là où ça peut commencer à devenir dangereux, en fait, ce truc-là. C'est une complication au foie. Je ne suis pas médecin, j'aurais du mal à expliquer, voilà, mais ça se manifeste par des démangeaisons sans boutons, donc sans plaques, sans rien. C'est juste que ça gratte la plante des pieds, la plante des mains. Moi, ça me grattait clairement tout le corps. On a fait du coup les analyses de sang et donc ça a été confirmé. Et puis on m'a envoyé faire un monito. Donc j'étais à 37 semaines plus quelques jours. On m'a envoyé faire un monito. Et là, on m'a dit, bon, bah, on vous garde, le monito, ça va pas du tout, vous avez 16 de tension, et en plus, vous avez votre truc au foie. Voilà, donc ils m'ont hospitalisée. Donc moi, j'ai même pas eu le temps de me préparer, ma valise n'était pas prête. Je m'étais dit, j'ai le temps, encore, de toute façon, celui-là, il arrivera pas en avance non plus. Je suis pas du genre à accoucher avant terme, hein. Clairement, moi, à chaque fois, j'ai des cols fermés, j'ai jamais de menace d'accouchement prématuré, et pourtant, je suis vachement active, j'ai porté ma fille toute ma grossesse. J'ai marché beaucoup, enfin je suis pas du tout j'ai fait beaucoup de voitures, j'ai pas du tout fait attention, je me suis pas assise toute la grossesse, quoi. Et donc ils m'ont hospitalisée, donc voilà, d'une heure à l'autre, bah ça y est, je me retrouvais à la clinique. Donc à peine le temps de dire au revoir à ma fille, j'ai insisté pour rentrer chez moi, lui dire au revoir et prendre mes affaires. Ils voulaient pas, ils m'ont fait signer une décharge. Voilà, si vous sortez de la clinique dans votre état, vous prenez vos responsabilités. J'ai dit, je les prends, mais je vais dire au revoir à ma fille, je vais pas la voir avant une semaine. Je suis retournée chez moi, j'ai fait ma valise, j'ai appelé ma mère en panique, oui, vite, faut que tu viennes, parce qu'il fallait qu'elle soit là la nuit pour garder ma fille, parce qu'elle vit à la boule. Alors la nounou était là la journée, mais la nuit, il fallait que ma mère prenne le relais. J'ai prévu mon chéri, donc il m'a vite rejoint, il bossait à ce moment-là. Et puis voilà, j'étais hospitalisée, donc ça c'était le vendredi. Et le dimanche soir, il me semble, c'était un dimanche soir, on me fait un monito. En fait, tous les jours, on me faisait un monito et une surveillance pour le foie. Et on m'avait déjà mis sous traitement pour le foie, donc il m'avait dit que ça devait aller mieux. Sauf que les résultats, en fait, à chaque fois qu'on fait une prise de sang, ça met 4 jours à arriver. J'ai dit, mais le problème, c'est que peut-être qu'on n'a pas 4 jours, en fait.
Oui.
Peut-être qu'on ne peut pas attendre. Et le monito qu'on m'a fait dimanche était un peu bizarre. Il y avait des ralentissements du cœur. Je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin. Mais je sais reconnaître un monito qui est bon et un monito qui est moins bon. Et il n'était pas cata, mais il n'était pas terrible. Je voyais qu'il y avait des ralentissements. Et à un moment, le cœur était trop régulier. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai appelé la sage-femme. Elle m'a dit, oui, c'est un peu bizarre. Et non, c'était une infirmière en plus. Il n'y avait pas de sage-femme parce que c'était le soir. Et mon gynéco n'était pas là. Le seul week-end où il n'était pas là, c'était celui-là. Donc c'était le gynécologue de garde qui est venu me voir et tout. Il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoutez, moi je prends aucun risque, je fais du diabète gestationnel, le bébé est énorme, ça y est, là on va pas prendre de risque, on va pas gagner 3 jours, ça sert à rien, ça ira. Donc voilà, donc il m'a fait une césarienne. Là on n'a pas fait de déclenchement, j'avais pas le droit parce que j'avais déjà eu une césarienne pour ma fille, donc utérus cicatriciel, donc pas de déclenchement là-dessus, donc césarienne obligée. C'était soit je faisais une césarienne, soit j'attendais d'accoucher normalement. Mais bon, avec mon truc au foie, il y avait peu de chances que ça arrive, donc pas de regret. La césarienne s'est merveilleusement bien passée. Mon chéri est arrivé en panique. Ben, en fait, il venait de repartir quand on m'a fait le monito. Il est arrivé à la maison, je dis bah non, tu vas revenir en fait. Là, j'accouche. Et puis voilà, la césarienne s'est super bien passée, toute petite équipe, il y avait de la musique dans le bloc opératoire, l'anesthésiste trop sympa, le gynéco de garde. J'avais un peu peur parce que j'ai vraiment confiance en mon gynéco, j'avais un peu peur d'en avoir un qui me connaissait pas, et en fait il a été merveilleux aussi. Ils m'ont fait une péridurale et non une rachie, donc j'ai beaucoup mieux toléré l'anesthésie. J'ai pas failli lui vomir dessus, voilà. Voilà, Oscar allait très bien à la naissance. T'as un beau bébé de 3,6 kg un mois avant, donc il aurait fait 4,2 kg, 4,3 kg si j'étais allée jusqu'au terme, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est pas plus mal que j'ai accouché avant. Et puis il allait très bien. Donc lui, je l'ai allaité pour le coup. Tout de suite. En fait, quand on m'a amené au bloc, on m'a dit vous voulez allaiter. J'ai dit je vais tester, je vais faire la tétée d'accueil et puis on va voir comment ça.
Tu y avais pensé avant ou c'est à ce moment-là ?
J'y avais pensé, me suis dit pourquoi pas. Cette fois-ci, en fait, j'ai le mode de vie qui s'y prête. Je vais être pas mal à la maison, je vais bosser de la maison. J'ai la nounou qui s'occupe de ma fille à la maison la semaine. Donc, et puis j'ai mon chéri qui est là pour m'aider. Donc je suis pas toute seule, donc je peux prendre le temps d'allaiter. Et voilà. Mais au début, je m'étais dit au pire, je le ferai juste à la maternité.
Tu testes, quoi.
Je me suis dit, je teste à la maternité et on voit comment ça se passe. Ça s'est merveilleusement bien passé. Il a pris le sein tout de suite. Il a jamais perdu de poids. Normalement, les bébés perdent du poids et on regagne. Moi, il a toujours gagné. Il a toujours pris du poids. Donc, ils m'ont laissé sortir assez rapidement. Un jour avant ce qui était prévu, j'ai demandé en fait. Je voulais retrouver ma fille. Et puis, l'allaitement s'est super bien passé. J'ai allaité 2 mois. J'ai allaité 2 mois et aucune encombre. Alors, voilà, effectivement, un bébé allaité, ça. La nuit, ça se réveille toutes les 2 heures. C'est plus compliqué qu'un bébé au biberon qui est bien calé avec son lait épaissi. Voilà, là, c'est bon. Mais c'était sportif, mais j'ai adoré. C'était une super expérience. Et voilà. Et puis la rencontre avec, avec ma fille, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Surtout qu'elle avait 19 mois à ce moment-là. Non, 18 mois, même pas 19. Et, alors, elle parlait déjà bien. Là. Elle parle vraiment très bien. Elle s'exprimait déjà vachement bien. Mais je m'attendais quand même pas à ça. Je l'ai beaucoup préparée pendant toute ma grossesse. Romy, en fait, elle touchait mon ventre, le bébé, elle faisait des caresses au bébé, elle faisait des câlins à mon ventre. Enfin, c'était vraiment, je l'avais préparée au maximum. Je voulais surtout pas que le bébé arrive comme un cheveu sur la soupe pour elle et qu'elle s'y attende pas. Et donc, je suis rentrée de la maternité avec Oscar dans le cosy. Et l'émerveillement dans ses yeux, j'ai jamais vu ça. J'ai une vidéo d'ailleurs qui est hyper. Enfin, qui est hyper touchante, même là d'en parler, ça me met les larmes aux yeux tellement je m'attendais pas du tout à ça. En fait, elle a tout de suite fait des grands sourires. Bébé Oka, elle l'appelait, arrivait pas à dire Oscar. Et tout de suite, elle lui a fait des câlins, des bisous, elle le touchait délicatement, les pieds et tout. Et en fait, elle est amoureuse de son petit frère depuis le début, elle l'adore. Alors maintenant, parfois, il y a un petit peu de jalousie, mais. Normal. Il a été tellement bien accueilli et c'était fou. Et puis j'avais peur en fait, comme j'allaitais Oscar, déjà j'avais pas allaité Romy, donc je culpabilisais un petit peu de lui donner quelque chose que j'avais pas donné à ma fille. Mais j'avais peur que en fait elle me voit au sein toute la journée, enfin qu'elle voit Oscar à mes seins toute la journée, qu'elle se dise ah maman, elle a tout le temps Oscar dans les bras. En fait, pas du tout. Elle était vachement. Après, je la fais beaucoup participer depuis le début. Elle m'aide à changer ses couches, elle lui nettoie les fesses avec des cotons, elle lui donne le bain, évidemment sous surveillance, mais là on a commencé les petits pots il y a 2 mois, elle lui donne à la cuillère, alors je tiens quand même la cuillère parce que sinon elle va l'étouffer avec, mais elle participe vachement et je l'implique vachement dans les tâches avec Oscar et j'essaie de ne pas faire de différence entre eux après. Voilà, c'est. Non, elle est honnêtement incroyable. C'est une merveilleuse expérience et puis. Une fois que j'ai accouché, mes hormones sont redevenues normales. Pas de baby blues. Alors moi, comme j'aime pas être enceinte, je risquais pas de faire un baby blues parce que moi, je suis très contente quand le bébé est hors de mon ventre, pas à l'intérieur. Donc ça s'est bien passé. Et puis non, j'ai nagé dans du coton pendant tout l'allaitement. Les hormones au climax du bonheur. Enfin vraiment... Même avec la fatigue, je me rappelle faire des notes vocales à Anne-Charlotte. Incroyable, l'arrivée du deuxième, on est beaucoup plus zen, tout va bien. J'étais shootée, j'étais complètement shootée. Puis j'ai arrêté l'allaitement, et puis là, il y a quand même une petite chute d'hormones à ce moment-là. Mais honnêtement, non, puis forcément les tensions qu'il y avait dans mon couple, tensions entre guillemets, mais c'est vrai que j'avais vraiment, enfin j'étais horrible pendant ma grossesse, donc... Pierre-Edouard était quand même vachement content de me retrouver une fois que le bébé était sorti, de se dire bon, j'ai retrouvé ma chérie avec son caractère normal, un peu fort quand même, mais voilà, en tout cas, tout se passe bien. Après, forcément, deux enfants, c'est du boulot, c'est un sacré chamboulement. Puis le deuxième, alors nous, on a commencé notre vie de couple avec un bébé déjà, donc pour nous, c'était l'habitude, mais le deuxième était un vrai chamboulement quand même. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de concessions. Mais on gère très bien. Après, voilà, il y a eu des nuits un peu compliquées. Là, on revient d'une semaine en vacances en Islande tous les deux, nos premières vacances tous les deux, c'était fabuleux. Puis bah, c'est vrai que découvrir, j'étais trop contente de le découvrir en fait en dehors de la paternité,
ouais.
Parce qu'on n'a jamais passé une semaine à deux en fait, donc maximum 2 jours pour un mariage, mais sinon on n'a jamais laissé nos enfants aussi longtemps, et voilà, ça nous a fait du bien, et puis voilà pour la petite histoire.
Quel regard tu portes sur Claudia qui découvre son test de grossesse positif toute seule et qui aujourd'hui...
C'est vrai que là maintenant, il y a 2 ans, voilà, je découvrais, enfin il y a 2 ans et demi, je découvrais ma première grossesse. Là maintenant j'en ai 2, j'ai accouché de 2 enfants. Là. Je me revois et c'est vrai que ça me paraît... déjà je me remets à ma place il y a 2 ans et demi, jamais j'aurais pensé que 2 ans et demi plus tard ça y est j'en aurais 2, enfin vraiment c'est pas du tout, mais tu vois la Claudia d'il y a 2 ans et demi, j'ai envie de lui dire fonce, ça va aller, t'inquiète,
ouais.
Destin a bien prévu les choses, et puis voilà, puis finalement j'ai eu raison de me faire confiance, surtout j'ai eu raison de faire confiance à la vie, au destin, au moment où j'ai choisi de garder ma fille, garder ce premier bébé, et voilà, je regrette rien et j'ai beaucoup de chance.
Et qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Oh bah tout. Tout, j'étais très fêtarde, je ne le suis plus du tout. Sociabiliser m'angoisse. J'aime les dîners en petit comité au resto, mais ça s'arrête là. Ça a changé, j'ai été élevée en fille unique, donc j'étais quand même assez axée sur moi-même, faut être honnête. J'étais pas égoïste, mais j'étais très centrée sur moi-même. Voilà, j'ai été élevée en fille unique. Ma mère qui me disait toute la journée que j'étais la meilleure, la plus belle, la 7e merveille du monde. Et en fait, ça a changé ça, surtout. C'est que maintenant, je pense plus à moi, je pense à mes enfants en priorité. Ils passeront toujours en priorité. Non, ça a changé pas mal de choses. J'ai plus d'angoisse pour moi. J'étais très anxieuse. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque, entre mes 20 et 27 ans, du coup. J'en fais plus du tout. En fait, maintenant, les seules choses qui peuvent m'angoisser, c'est ce qui pourrait arriver à mes enfants, quand ils sont malades, quand ils vont pas bien. Mais voilà, surtout beaucoup d'amour. Je me suis découvert je suis pas une mauvaise mère, j'ai pas l'impression de l'être, en tout cas, je donne tout pour mes enfants. Et c'est sûr qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas imaginé que je pouvais être une bonne mère. Et je suis fière maintenant de ce que j'ai accompli aujourd'hui, et très heureuse.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Maman parisienne, c'est faire 15 000 choses en même temps, avoir une charge mentale de la taille de je sais pas quelle planète, enfin c'est beaucoup de charge mentale, faire 15 000 choses en même temps, je travaille, en plus je fais beaucoup de choses différentes, donc c'est vrai que... il faut toujours penser à tout le temps, c'est un peu ça, c'est la vie à 100 à l'heure, c'est un peu comme ça que je vois ma vie, mais c'est ce que j'aime aussi, qui m'aura épanouie.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Mon endroit kids-friendly à Paris, très honnêtement, dans Paris, honnêtement j'ai quitté justement Paris-Centre pour ça, parce que je trouvais pas ça kids-friendly, donc... En région parisienne, là où j'habite, oui, il y a plein de parcs, des espaces verts, des chevaux, des champs, et c'est passionnant.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Les projets rien que pour moi, alors d'ouvrir mon agence immobilière, en plus de mes autres projets à côté, voilà, je travaille avec des influenceuses, je suis community manager, je travaille avec des marques aussi. Donc, côté professionnel, pas mal de projets. Projets familiaux, d'acheter notre maison, on est locataire, on voudrait acheter. On s'arrête à 2 enfants pour l'instant, voilà, pas d'autres projets particuliers, si ce n'est que plus profiter à deux, peut-être plus se faire des vacances en couple tous les deux, vu que nos enfants grandissent doucement, mais voilà, on va s'accorder, on a pris la décision après l'histoire de s'accorder plus de temps à nous deux, et voilà.
Merci beaucoup Claudia.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast, cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.